Vous écoutez On lit pour vous.
À la croisée des autres, une chronique d'Elsa Pépin parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Sophia accompagne sa mère, Rose, à Almeria, dans le sud de l'Espagne, pour un pèlerinage visant à guérir ses jambes boiteuses qui l'empêchent de marcher. La jeune fille de 25 ans, formée en anthropologie mais qui travaille dans un café à Londres, devrait étudier les peuples primitifs, mais enquête plutôt sur les symptômes étranges de sa mère depuis l'âge de 5 ans. Ce voyage sera l'occasion de s'intéresser pour la première fois de sa vie à la seule primitive qu'elle n'a jamais étudiée, elle-même. À travers des pérégrinations narrées avec ce mélange de tons et de registres dont Deborah Levy a le secret, Hot Milk se situe au carrefour de la fable métaphorique, du roman d'aventure loufoque et de l'étude psychanalytique de la famille. Levy exerce son humour noir, dévastateur et mordant, et ne prend rien au sérieux tout en abordant des sujets sérieux. Elle s'attaque ici à la mythique relation mère-fille, à la fois critique et hommage à ce lien complexe. Y sont abordées l'impossible bonne distance qui sépare une mère de sa fille et tout ce qui fait de la famille un théâtre auquel on ne cesse de se référer tout en voulant s'en arracher. « Sa tête est ma tête », déclare Sophia à propos de sa mère. « Mes jambes sont ses jambes », ajoute-elle alors qu'elle boite avec elle depuis 2 décennies. Ingénieux, toujours surprenant et truffé de délicieux dialogues absurdes, le roman joue avec les concepts, les clichés et les mythes pour mieux les déconstruire. Hot Milk dégage une énergie folle et émancipatrice. Les femmes y jouent leur liberté, leur place dans le monde, leur désir, cherchent à échapper aux pièges que la société leur tend, à dépasser les limites que la vie leur impose. Pour Sophia, la route est chargée. De sa vie pathétique et minuscule, accaparée par la maladie de sa mère, elle part à la conquête d'une intrépidité inconnue et libératrice. Elle s'échappe vers la mer pleine de méduses et rencontre une certaine Ingrid Bauer, qui deviendra son amante. D'un côté, il y a le devoir de la fille face à la mère, de l'autre, le désir d'un ailleurs, compliqué, labyrinthique. Parmi les absurdes détails du livre, on croise un singe vert électrocuté dans un bocal chez Dr. Gomez, l'étrange guérisseur qui accueille Rose et Sophia dans sa clinique de marbre blanc et dont les pratiques frôlent le charlatanisme. Rose a hypothéqué sa maison pour payer la consultation de 25 000 euros à ce docteur qui demande à Rose, entre autres conseils non orthodoxes, de raconter sa dernière douleur au cadavre d'un insecte et à Sophia d'aller voler un poisson au marché pour gagner en témérité. Avec des phrases denses comme des poèmes, le roman se savoure lentement, le sens figuré dormant sous chaque détail. Ce qui est couvert est toujours intéressant. On ne recouvre jamais du vide, dit Sophia, au sujet des plastiques blancs qui couvrent les terres d'Almeria, des serres où travaillent des migrants sans papier sous une température pouvant atteindre les 45 degrés, une pratique frôlant l'esclavage. Derrière le récit comique de Sophia, les excentricités d'Ingrid et les caprices de Rose se développent une critique sociale et politique où sont attaqués les systèmes de pouvoir, le monde médical, pharmaceutique, les communications et le patriarcat. Le père de Sophia, Christos Papastergiadis, a quitté femme et enfant il y a longtemps pour refaire sa vie en Grèce avec une femme de 40 ans, sa cadette. Sophia rend visite à ce père, souffrant de conversion religieuse. Les retrouvailles sont l'occasion de constater que le paternel agit selon ses intérêts et ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement. Ainsi, la fille découvre que la dette de son absence, dont Sophia serait la créancière, n'existe pas dans son monde à lui. Interrogeant les complexes entrelacs des histoires familiales, du désir et de l'identité, Levy offre une fouille profonde et hautement symbolique sur le poids de la responsabilité. Subtil et frondeur, Hot Milk réfléchit aux limites du sacrifice de soi pour les autres, rappelant l'image associée aux déesses de la fertilité débordant du lait de la tendresse humaine. La mère aura rarement eu un portrait aussi juste que dans ce roman doux amer. Au carrefour de trois vies. Dans « Traverser les forêts », Caroline Hinault, auteure du superbe « Solac », aborde la question des frontières à partir de notre relation à la forêt. Campée dans la dernière forêt primaire d'Europe, restée plus de 10 000 ans à l'écart des influences humaines, le roman croise les trajectoires de trois femmes au destin fort distinct. La première, Alma, est une jeune réfugiée biélorusse de 18 ans qui essaie de franchir la frontière polonaise avec son cousin. Hino s'est inspirée d'événements réels ayant eu lieu à la limite territoriale entre la Pologne et la Biélorussie à l'automne 2021. Dure et cruelle, l'histoire d'Alma relate la transformation soudaine d'une vie normale au statut de migrant, de sans-lieu. Pour Alma, la forêt est un piège, un marécage. Le second récit suit Nina, une jolie Polonaise issue d'un milieu modeste, caissière dans un supermarché. Forcée de vivre seule avec son fils dans l'ancienne maison forestière de ses parents après son divorce, elle erre, désorientée, et fréquente Victor, figure populaire de l'antenne locale du Parti nationaliste qui débusque les migrants pour la défense des valeurs de la patrie éternelle. Victor viendra prêter main-forte à Nina quand celle-ci recevra la visite d'Alma. Le troisième récit est narré par Vera, une journaliste biélorusse exilée en forêt, épuisée par la répression des médias indépendants opérée par le régime de son pays. Depuis son refuge, la femme plonge dans la solitude avec effroi, mais le spectacle végétal la réanime. Comment articuler l'action dans le monde et le souci de soi, pose-t-elle en guise de réflexion sur le besoin de déconnexion et notre essentiel engagement envers les autres. Lorsqu'elle croise les migrants, l'appel à la solidarité sera plus fort que celui de l'isolement. Ce deuxième roman, fort bien construit d'Hino, confirme son talent pour un style imagé et efficace. L'écrivaine fait sentir de l'intérieur l'épreuve physique et psychologique des réfugiés, excelle dans l'art du récit immersif, sensoriel, faisant de ce livre une œuvre à la fois poétique et politique, illustrant sans détour la violence de la crise migratoire européenne. Avec son mélange de registres, passant du thriller psychologique à des passages humoristiques où elle se moque de la lâcheté éhontée des privilégiés, Traverser les forêts réfléchit aux frontières qui nous séparent des autres. Frontières réelles, ici, infranchissables pour les migrants, mais aussi la contre-frontière nécessaire qui relie en silence les êtres vivants et que nous inspirent les arbres. Et si le sanctuaire forestier pouvait nous rendre plus empathiques, laisse croire Hino, peut-être saurions-nous mieux venir en aide aux plus démunis. C'était « À la croisée des autres », une chronique d'Elsa Pépin, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Sauriez-vous survivre aux ténèbres? Une chronique d'Elsa Pépin, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires. Hantée par la mort ou la faim, deux héroïnes soufflent un vent d'objection sur les ténèbres qui menacent de les avaler, des combattantes qui interrogent notre propre capacité à nous lever contre les forces qui nous résistent. Il s'agit d'un moment dur dans une vie qu'on souhaiterait éviter, celui où notre parent devient invalide, qu'on se transforme en proche aidant, celui où chaque jour on va voir sa mère mourir. Pour sa première incursion du côté de l'autofiction, avec Anne d'Angleterre, récompensée du Médicis 2024, Juliette Deck, connue pour ses romans satiriques à l'écriture ciselée, relate cet événement qui a bouleversé sa vie alors qu'elle faisait la promotion de son dernier roman, Monument national. sa mère octogénaire, est tombée dans son appartement parisien, retrouvée 28 heures plus tard inanimée sur le plancher de sa salle de bain. Alors que les chances de survie sont infimes, du jour au lendemain, la fille découvre les ratés du système de santé français, un véritable chemin de croix pour réussir à trouver les soins adaptés, 12 travaux et plus encore. La fille refuse de se laisser abattre, son combat pour sortir sa mère des ténèbres est acharné. Mais le récit fait aussi l'enquête à rebours de ce que fut la vie de cette femme anglaise née en 1937, immigrée en France, et qui lance, comme ça, parmi les rares mots qu'elle prononce depuis son accident, qu'elle a deux filles et non pas une, comme il a toujours été. Depuis ce choc d'une information livrée par une mère à demi présente, la fille part à la recherche d'indices pour faire la lumière sur ce mystère. Deck raconte, en alternance avec son récit des 12 travaux des hôpitaux parisiens, la vie d'Anne, sa mère, depuis son passé d'enfant studieuse, un foyer où sa mère s'occupe de la grand-mère envahissante à côté du père effacé et de la sœur Betty, tragédienne et chaotique, qui accumule les hommes, les instabilités et les substances. Rappelant par endroits le travail de reconstitution d'une Annie Ernaux dans « Les années », le magnifique roman de Deck fait incursion dans le milieu ouvrier de Manchester d'avant la Seconde Guerre mondiale. Anne sera la première fille de la famille à poursuivre des études supérieures, à s'émanciper et à quitter la ville pour vivre en France. Apprendre à connaître la vie de cette transclasse tout en suivant ses lents progrès de réadaptation est bouleversant. Sans jamais verser dans le pathos, Deck nous conduit dans une quête de vérité teintée des tensions propres à la relation mère-fille, tisse un récit fin, subtil, qui joue avec les codes du suspense et de l'autofiction, réfléchit aux parts d'invention d'une vie. Elle possède l'ironie la plus mordante, une musique qui décape et sème le rire dans le drame comme nul autre, mais manie aussi des phrases choc aux profonds échos. Ses parents logeaient en elle comme deux géants qui l'empêchaient d'accéder à la vie, écrit Deck, à propos de Julia, qui voudrait une mère solide qui accueille et contienne. Elle aura hérité d'une mère littéraire qui dialogue avec elle par le truchement d'œuvres partagées. Avec Anne d'Angleterre, sa fille lui rend un vibrant hommage. Chant d'insoumission. Campée dans un lieu et un temps imaginaire, Madeleine avant l'aube raconte un monde lointain qui fait écho au nôtre. Un milieu rural français d'il y a plusieurs siècles ou celui d'un futur proche post-crise climatique. Dans ce lieu reculé, minuscule hameau de trois maisons, séparé du monde par un fleuve qui n'a plus de pont, une dizaine de paysans vivent dans la faim et le froid, sous le joug des ambroisies et la menace constante d'Ambroisie le fils, qui est fou et aime les filles qu'il pourchasse et abîme. Quand elles entendent son cheval galoper, les femmes se cachent pour éviter d'être violées. Quand elles s'opposent, on leur inflige des punitions. C'est plus facile d'accuser les victimes quand le bourreau est le maître, écrit Sandrine Colette. Les gens du hameau ont choisi la soumission et le silence, se préférant lâches mais vivants, jusqu'au jour où débarque Madeleine, une petite fille à moitié sauvage qui, telle une comète, vient bousculer l'ordre établi et jeter de la clarté sur ce monde enténébré qui ne change pas. La fable, imaginée par Colette, appartient au mythe, raconte les mécanismes immémoriaux du pouvoir qui se reproduisent, rappelant aussi, à travers cette héroïne qui rejette l'obéissance, la possibilité d'une rébellion. Madeleine est une fille de faim, F-A-I-M, comme on appelait les enfants dont les parents étaient morts de la famine, qui sera recueillie par les jumelles Aïlis et Ambre, qui ont chacune une ferme qu'elles habitent avec leur mari. Ambre a épousé Léon, un ivrogne et un salaud, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, tandis qu'Aïlis et Eugène ont trois fils. Madeleine est spontanément adoptée par Ambre et les trois garçons deviennent ses frères. Ce 11e roman de Sandrine Colette, récompensé du Goncourt des lycéens 2024, se divise en trois actes. Un premier temps de la servitude, un deuxième qui se passe après l'arrivée de Madeleine et un troisième temps de la vengeance. Depuis sa construction magistrale et son écriture viscérale au rythme soutenu, le livre restitue avec véracité les grands hivers de froid extrême qu'a connu la France il y a deux siècles, des scènes d'horreur qui frappent l'imaginaire, la peur, le manque qu'on ressent dans nos entrailles. Suspense sensoriel et roman d'aventure au souffle soutenu, Madeleine avant l'aube est aussi un chant de révolte et d'affranchissement porté par une enfant lumineuse et passionnée qui incarne la fureur de vivre. Grâce à elle, tout se charge d'une énergie nouvelle, d'un refus de se contenter. Madeleine ouvre une fenêtre sur une liberté inconnue, mais avec elle vient aussi le danger. Celle qu'on désigne comme la plus teigneuse de nous tous n'a peur de rien, et sa nature sauvage la rend téméraire. Un jour, elle tue un chevreuil, alors que la chasse est réservée aux ambroisies et que ceux qui braconnent risquent la mort. Madeleine a transgressé la règle, sans hésiter, dans un geste spontané à partir duquel rien ne sera plus pareil pour la petite communauté qui se montre solidaire. Avons-nous intérêt à ce que le monde change ? Questionne la romancière dans ce livre brûlant. La révolution passera par les femmes et les enfants et par un retour à une certaine sauvagerie, propose Colette dans ce conte rural à la langue sobre et maîtrisée. Un récit efficace à la narration surprenante, hymne à la vie et à la résistance. C'était « Sauriez-vous survivre aux ténèbres ?» une chronique d'Esla Pépin, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires.
La rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse à surveiller. 10 propositions de lecture de Vicky Sansfaçon, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. La littérature jeunesse a tous les pouvoirs. Philosophe, elle ouvre la discussion et favorise le dialogue. Acrobate, elle contorsionne les esprits et ouvre les horizons. Humoriste à ses heures, elle adoucit les contours des problématiques pour oser les aborder de front. Jamais enfantine, elle est cet espace infini d'évasion qui se réinvente continuellement pour repenser le monde à hauteur d'enfant. À vous de découvrir les surprises qu'elle vous réserve pour cette rentrée littéraire. 1. Le fantôme qui voulait exister. François Gravel et Iris Boudreau, chez Comme des géants. C'est bien connu, un fantôme, c'est translucide. Et surtout, ça n'existe pas vraiment. Et comme tout ce qui est inexistant, il habite le grand nulle part. Une plaine infiniment ennuyeuse où tout ce qui n'a pas été inventé vient s'échouer. Mais ce fantôme n'en pouvait plus d'être un petit rien insipide. Il avait un rêve fou, celui d'exister. Cet album délicieusement absurde illustre de belle façon cette capacité infinie que nous avons de rêver et notre besoin irrépressible d'exister à la hauteur de nos ambitions. Dès 5 ans. 2. Le mauvais coup. Daniel Chaperon et Mirabol chez La Courte Échelle. Léonie se réveille avec une folle envie de jouer un mauvais tour. Si elle surprend son papa avec son klaxon, le fera-t-elle s'agripper aux plus hautes branches du sapin? Et s'il atteint le sommet de l'arbre, le condor viendra-t-il le déloger de son perchoir? Et si l'oiseau n'a plus assez de force dans ses talons, le déposera-t-il sur le sol ou au milieu de l'océan? Et si, en définitive, la seule limite à ce mauvais tour était son imagination? Dès 4 ans. 3. Juste là dans nos mains. Vincent Bolduc et Ximena Aragones Rossetto chez Dents de Lion. Les mains de Soya et de son papa s'agitent au rythme de leurs émotions. Celles de Soya griffèrent, imprévisibles et indomptables, tandis que celles de papa s'alourdissent et le plongent dans des profondeurs déprimantes. Aux limites de ce ballet gestuel, deux solitudes ont besoin de renouer pour s'apaiser. C'est une exploration inédite des émotions qui nous est proposée dans cet album qui, avec une délicatesse toute poétique, nous rappelle l'importance de tendre la main pour calmer les tempêtes. Dès 6 ans. 4. Ma langue fleurie. Simon Boulris et Marianne Ferrer chez Fonfon. Un album comme une ode à la douceur, celle qui nous enveloppe dans les bras de ceux qu'on aime, celle qui nous allège lorsque l'on s'autorise une gâterie qui sent bon le charpie tout neuf, et celle que l'on se doit à soi-même et aux autres, même lorsque l'on commet une erreur. Comme quoi, telle une fleur qui s'épanouit dans une craque de béton, tous les petits riens de la vie sont une bonne raison pour faire fleurir sa créativité, son empathie et sa gentillesse. Dès 8 ans. Votez pour le pire. Dylan Hewitt, chez Monsieur Ed. Régis Le Pire a une certitude dans la vie, celle d'être le meilleur. En quoi? En tout. Et puisqu'il est le meilleur des meilleurs, rien de plus normal pour lui que de devenir le chef. Page après page, à grands coups d'exagération et de promesses extravagantes, Régis essaiera de convaincre petits et grands lecteurs de sa supériorité écrasante, tout en ne réussissant finalement qu'à mettre au jour tous ses défauts, et ce, avec panache. Dès 3 ans. 6. Najma dans les étoiles. Farah Alibé et Jeremy Tabor, chez Petit Homme. Najma, extraterrestre sur sa propre planète, prend une décision radicale après une énième dispute avec ses parents. Elle s'échappe à bord de la navette spatiale familiale, déterminée à trouver sa place dans l'univers. Chaque étape de son périple à travers l'infinité cosmique lui offrira l'occasion d'apprendre les lois de la physique qui régissent ces mondes fabuleux, tout en lui donnant l'opportunité de considérer sa terre natale sous un autre œil. Dès 8 ans. 7. Opération Fleur de nuit. Laura Doyle Péan et Maily Keo, Kata éditeur. Max, jeune non-binaire, et ses amis décident de mener une enquête lorsqu'ils constatent le déversement excessif de déchets dans la ville durant la nuit. Déterminés à agir, malgré l'inaction des autorités, ils lancent une opération militante baptisée « Opération Fleur de nuit ». La seule chose qu'ils n'avaient pas prévue est que cette initiative pour protéger l'environnement les conduirait à dépister les secrets d'une entreprise polluante et de son mystérieux gardien. Dès 8 ans. 8. Fatigué mort. Marc-André Dufour, l'abbé, chez Leméac. Sam, 16 ans, a l'impression d'avoir vécu une multitude de vies, toutes plus désolantes les unes que les autres. Au bout du rouleau, sans repère et sans argent, il se raccroche à sa seule bouée de sauvetage, son patron, Mario. Malheureusement pour lui, cette connexion qu'il croyait salutaire l'entraînera encore plus profondément dans les difficultés, précipitant sa chute alors qu'il croyait avoir déjà touché le fond du baril. Dès 14 ans. 9. Tout ce que je déteste à propos de moi, tome 1, André Archambault, chez Les Malins. Félix entame son secondaire 2 dans une nouvelle école, déterminé à repartir de zéro après une année complète d'intimidation. Son objectif? Se fondre dans le décor. Et pour ce faire, rien de mieux comme bouclier social que se plonger dans son carnet d'écriture. Elle avait tout prévu pour ne faire aucune vague, sauf peut-être s'apercevoir que le nouveau best-seller dont tout le monde parle ressemble à s'y méprendre à son propre manuscrit. Résolu à identifier la voleuse, Félix commence son enquête tout en essayant désespérément de rester dans l'ombre. Dès 9 ans. 10. Collège des mystères. Tome 1. Les orphelins de Casier. Édite Girard, chez Québec-Amérique. Rien ne semble pouvoir brusquer le calme immémorial du collège Sainte-Hubertine. Et pourtant, il suffisait que 5 adolescents ouvrent tour à tour leur casier pour y trouver d'étranges reliques et pour qu'une suite d'événements inexplicables vienne dévoiler l'inquiétante réalité dissimulée derrière les murs vénérables de l'école. Et si la clé de l'énigme se dissimulait dans les pages poussiéreuses des contes et légendes? C'était la rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse à surveiller. 10 propositions de lecture de Vicky Sans Façon, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.